Hi, my name's Darren Roy. I'm the Assistant International Coordinator for Servants of the Lord Ministries.
Bonjour, je m'appelle Darren Roy et je suis le coordinateur international adjoint de Servants of the Lord Ministries. Cette semaine, nous publions à nouveau une vidéo de Joseph Hitchcock dans laquelle il décrit son témoignage et qui a été enregistrée et diffusée à la télé en Irlande sur Christian Communication Network. J'aimerais que tout le monde y prête attention, peu importe si tu connais SOLM depuis longtemps ou si tu es relativement nouveau dans l'enseignement de Joseph Hitchcock, je t'encourage à écouter attentivement son cœur et ce que Dieu lui a montré, ainsi que le cœur qu'il avait pour l'Église et pour que les gens deviennent tout ce que Dieu les a appelés à être, principalement qu'ils apprennent à connaître Dieu personnellement pour eux-mêmes. Prie, regarde cette vidéo et je te parlerai après. Bonjour et bienvenue à l'émission Faith and Focus de CNN. Je suis John Coulter. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le révérend Joseph C. Hitchcock de l'Oklahoma aux États-Unis. Il est le fondateur de Servants of the Lord Ministries. Ce travail l'a amené à faire le tour du monde à plusieurs reprises. Il voyage dans 25 pays chaque année, se spécialisant dans les séminaires de groupes chrétiens et les conférences de pasteurs. Ce travail l'a conduit dans certains des pires points chauds du monde. Son histoire est celle d'un danger et de la délivrance de Dieu de ce danger. J'ai rencontré le pasteur Hitchcock lors de sa visite à l'église Elim de Donegal Pass à Belfast, une ville déchirée par la guerre. Pasteur, pourrais-tu me raconter un peu comment tu as rencontré le Seigneur? Je suis né et j'ai grandi dans l'est de Tennessee. Mon père a été pasteur pendant 60 ans. Je suis le plus jeune d'une famille de 10 enfants, à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai accepté le Seigneur, j'ai donc eu une relation avec le Seigneur et j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai apprécié cette relation avec le Seigneur et j'avais de bons rapports avec mon père. Je faisais partie du groupe de chant familial et c'est ainsi que j'ai eu l'occasion d'apprendre. J'ai été fidèle au Seigneur jusqu'à l'adolescence. Puis j'ai commencé à fréquenter des hommes plus âgés que moi. Je me suis attiré quelques ennuis et je suis devenu rebelle. Je suis devenu le fils prodigue typique. Depuis mon adolescence jusqu'à plusieurs années plus tard, je me suis éloigné du Seigneur. Je suis devenu le Seigneur de ma propre vie et j'ai commencé à construire mon propre royaume. À ce moment-là, je désirais des choses excitantes et dangereuses. Par l'entremise d'un de mes cousins, je suis entré dans la police. Il était shérif adjoint dans le comté où je vivais. En fait, il était l'agent de police et il m'a fait embaucher comme shérif adjoint. J'ai travaillé avec lui et j'ai aimé ce genre de travail. Je l'ai suivi. J'ai déménagé à Chicago et j'ai fait partie d'un syndicat à la à Ford Motor Company là-bas. Je suis devenu membre du syndicat local et j'ai fini par travailler dans la sécurité au sein du syndicat. J'ai quitté ce poste et je suis entré dans le service militaire et la division de la police militaire de l'armée. J'étais un expert en fusils et au pistolet. J'ai étudié le karaté pendant de nombreuses années et c'est ce bagage particulier que j'ai choisi comme carrière. Après avoir quitté l'armée, une partie de mon travail au début des années 60 consistait à former des équipes anti-émeutes. Comme lorsque j'étais dans la police militaire, j'ai déménagé en Floride pour faire partie d'une société de sécurité de la division des patrouilles surveillées. J'étais directeur, chef de la division, et c'était en quelque sorte ma grande ouverture. C'était la chance que je cherchais. J'avais un bon salaire, un pourcentage de l'entreprise, une voiture meublée et tout. C'était l'ouverture que je cherchais pour gagner ma vie dans ce type de travail, sans être simplement un policier normal. J'en étais là. Lorsque j'ai connu un réel prise, moi, et que je suis revenu au Seigneur, il a fallu me briser pour que je change, car je suis de nature très têtue et j'ai la tête très dure. J'ai décidé que je ne voulais pas être dans le ministère. Il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire dans la vie, mais l'une d'entre elles, j'avais décidé que je ne le ferais pas, je ne serais pas pasteur. J'en avais fait le vœu. J'étais très obstinée et à résister à l'appel de Dieu sur ma vie. Je savais vraiment que depuis mon plus jeune âge, Dieu avait un appel sur ma vie. C'était une chose pour laquelle mon père avait prié que Dieu fasse qu'un de ses enfants soit un pasteur. Mais le Seigneur l'a béni avec 7 filles. Et le Seigneur a le sens de l'humour parce que dans sa dénomination particulière, il n'ordonnait pas les filles dans le ministère. J'étais le plus jeune et après un certain temps, les deux frères aînés ont compris qu'ils n'allaient pas devenir pasteurs. Tout le monde a décidé que c'était moi, sauf sauf moi. J'ai dit que je n'allais pas le devenir. Il a donc fallu que beaucoup de choses tournent mal pour me briser parce que j'étais très indépendant. J'avais du succès, j'avais l'impression de très bien gérer ma propre vie et je n'avais pas besoin d'une béquille. C'est ce que j'avais l'impression que la religion était pour beaucoup de gens une béquille. J'étais devenu le seigneur de ma propre vie et j'avais l'impression d'avoir réussi dans ma vie, mais Dieu a commencé à me retirer la grâce. Beaucoup de choses ont commencé à mal tourner, à s'effondrer. C'est à ce moment-là que la pression a commencé à monter au point que je n'ai plus pu la supporter. J'ai tenu bon jusqu'au bout, jusqu'à ce que toute ma vie se soit effondrée. J'ai vécu des situations très proches, mettant ma vie en danger dans mon travail, où j'ai failli perdre la vie financièrement. Tout est allé de travers. La santé de ma femme s'est dégradée, elle était sur le point de faire une dépression nerveuse. L'accumulation de toutes ces choses m'a finalement amené à un point de désespoir, tel que j'étais prêt à essayer n'importe quoi d'autre. C'est à ce moment-là que Dieu a envoyé un jeune pasteur pour me parler de l'amour du Seigneur. Il m'a dit à quel point Dieu m'aimait, ce que je n'avais jamais pensé en ces termes. J'avais toujours vu Dieu comme un maître sévère. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas travailler dans le ministère, parce que j'avais vu certaines des épreuves que mon propre père avait traversées. J'avais décidé que personne ne me ferait subir ce genre de choses. J'ai résisté parce que j'avais vu Dieu comme un maître d'œuvre très dur. Je ne l'avais jamais vu comme de l'amour. Ce jeune homme a commencé à me présenter le Dieu d'amour. Il était pasteur chargeant de la musique dans une église, un jeune homme à l'allure très propre. Pourtant, lorsqu'il a commencé à partager son témoignage, son passé, il était sorti du milieu de la drogue. Il avait été hippie et il avait vécu tout ça. Ça m'a un peu choqué. Ça a attiré mon attention. Puis il a commencé à partager à quel point Dieu m'aimait. Il m'a dit, est-ce que tu réalises que Dieu t'aime tellement que si tu étais la seule personne restée sur la surface de la terre, il serait quand même mort pour toi. Je n'y avais jamais pensé personnellement. Il m'a dit, je ne sais pas quel est ton passé. Peut-être que tu as déshonoré ta famille. Peut-être que tu as fait toutes sortes de choses de ce genre. Il me frappait le plein fouet sur tout ce que j'avais fait de mal dans le passé. Mais il m'a dit, Dieu t'aime, il veut que tu viennes à lui, il te pardonnera, il te purifiera, il te donnera un nouveau départ, il t'aimera là où tu es. Pendant ce temps, alors qu'il partageait, l'onction du Saint-Esprit était sur lui et elle coulait sur moi comme des vagues. J'ai finalement déposé les armes, j'ai abandonné, j'ai cessé de résister à Dieu, j'étais tellement désespérée à l'époque, je ne me souciais même pas vraiment de ce que Dieu me faisait, j'avais juste besoin d'être soulagée. C'était ce genre d'attitude que j'avais, mais au lieu que Dieu soit dur avec moi, qu'il me condamne ou qu'il me juge, il a simplement déversé son esprit sur moi. J'ai senti comme un amour liquide se déverser sur moi. Toutes les blessures que j'avais subies au fil des ans, les déceptions, les frustrations, la culpabilisation de savoir que j'avais déshonoré mon père, que j'avais péché contre ma propre famille, toute cette culpabilité, toute cette honte s'est envolée. La peine m'a envahie. Je veux dire la paix de Dieu qui dépasse tout entendement et je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Et Dieu a continué à m'aimer. J'ai continué à attendre qu'il fasse quelque chose, mais il a continué à m'aimer. L'Esprit est venu et il est venu. Et il est venu jusqu'à ce que finalement quelque chose de profond se brise en moi. J'ai décidé ce jour-là, j'ai dit quelqu'un qui pourrait m'aimer comme Dieu m'a aimé, aussi peu aimable que je l'ai été au cours des années, je veux le connaître. J'ai dit à ce jeune pasteur à l'époque, j'ai dit que je veux le connaître, je ne veux pas seulement savoir à son sujet, j'ai dit je veux le connaître d'une manière personnelle, intime, comme je connais ma femme, comment puis-je faire cela? Il s'est un peu énervé, tu sais, et il m'a dit de lire la parole de Dieu, elle nous parle de lui, j'ai dit où dans la Bible, où dans la parole de Dieu? Il m'a suggéré de lire dans Jean où il est question de son amour. J'ai donc commencé à chercher Dieu parce que je voulais le connaître. Je ne voulais pas en savoir plus sur lui. Je ne voulais pas devenir ministre ou pasteur. Je voulais juste le connaître. Je me suis dit que pour le connaître de la même façon que je connaissais ma femme, je savais ce que cela demandait. Cela demandait du temps de qualité que ma femme et moi avions passé ensemble, nous partageant à partir du cœur et non de la tête. Et je la préfère et elle me préfère. C'est pourquoi je la connais mieux que quiconque sur la surface de la terre. Elle me connaît. Je voulais connaître Dieu de cette façon. J'en suis venu à la conclusion que pour connaître Dieu de cette façon, il n'y a aucun moyen de le faire sans passer du temps de qualité en sa présence, en communiquant avec lui à deux sens, pas seulement à un sens unique et à partir du cœur. C'est ce que je désirais, c'est ce que je cherchais. J'ai commencé à étudier la parole pour essayer de trouver l'autorisation de l'écriture parce que le jeune homme m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, tu ne peux pas sortir quelque chose de l'air et essayer d'y croire. Si tu veux avoir la foi pour quelque chose, tu dois trouver une autorisation claire et solide dans les Écritures pour ce que tu veux. Alors, tu dois faire confiance à la parole de Dieu. Alors, j'ai commencé à chercher dans la parole de Dieu. J'ai démissionné de mon poste de directeur de cette entreprise parce que j'avais travaillé tellement d'heures que je n'avais plus le temps. J'ai pris un autre emploi dans la sécurité qui n'était que de 4 heures par jour. C'était vraiment dangereux. Personne ne voulait ce travail. Mais il payait suffisamment pour que je puisse gagner ma vie et cela me donnait le temps d'étudier. Et je me suis mise à la parole de Dieu et j'ai commencé à étudier. C'était la première rencontre. Tu as manifestement été dans des situations poilantes à travers le monde. Pourrais-tu nous dire comment le Seigneur t'a délivré de ces situations? Oui, dans beaucoup d'endroits où j'ai voyagé, j'allais dans des zones qui n'étaient pas vraiment sûres. Depuis que je suis entrée dans le ministère, depuis que je suis entrée dans cette relation d'amour avec le Seigneur m'a envoyé dans le monde entier et j'ai voyagé dans environ 25 à 30 nations par an. J'ai visité à peu près toutes les parties du monde et beaucoup du pays du tiers-monde. Quand je prie et que je cherche à savoir où Dieu veut que j'aille, il peut y avoir beaucoup de bouleversements dans cette partie du monde, mais j'y vais simplement parce que Dieu m'a dit d'y aller. Et l'année dernière, récemment, j'étais en Inde. Quand il y avait beaucoup d'émeutes en Inde, ils fermaient des villes, brûlaient les bus et tout ça. J'étais en plein milieu de tout ça. C'est juste Dieu qui m'a délivré. Une partie de ce que j'enseigne est la façon de communiquer avec Dieu. C'est une chose importante. Je m'assure que là où je suis, c'est là où Dieu veut que je sois à ce moment-là. Je pense que c'est un élément clé de la synchronisation. Je me suis rendue dans des endroits où les situations étaient très dangereuses. Pourtant, grâce au timing et à la direction de Dieu, c'était comme si nous avions failli y passer. Nous avons toujours réussi à nous sortir de cette situation. L'une d'entre elles m'a vraiment rafraîchi au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, dans la région de Kano, qui est une capitale du Nord. Les musulmans, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup d'émeutes, incendies d'églises et de meurtres de chrétiens dans cette région. Il y a plusieurs années, un jeune évangéliste a prêché à l'université et beaucoup d'entre eux se sont sentis offensés. Ils ont commencé à brûler les églises et à tuer les chrétiens de la région, si bien qu'il n'y avait plus d'église en état de fonctionner. Je devais me rendre dans cette partie du monde et Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit « Je te veux dans cette ville ». Eh bien, les organisateurs de ce pays ne voulaient pas m'y envoyer. Ils disaient que c'était trop dangereux, qu'il n'y avait rien qui fonctionnait, qu'aucune église n'était ouverte, qu'ils avaient peur de sortir. Et j'ai dit « Eh bien, tu vérifies s'il y a un pasteur là-bas qui fait quelque chose ». Dieu a dit que je devais y aller et leur transmettre ce message. Ils se sont renseignés et ont trouvé un homme qui se réunissait sous un pont avec une congrégation d'environ 800 personnes. C'était un homme d'affaires et il avait décidé qu'il devait avoir une église, qu'il n'était pas normal qu'il n'y ait pas d'église fonctionnant dans cette ville. Il a dit, si les autres n'allaient pas le faire, je vais en fonder une. Il a commencé par réunir ses 22 employés et à prier. Il ne savait pas comment prêcher. Il n'était pas pasteur. Il a simplement commencé à prier et à dire, Dieu, nous allons rester assis ici et t'attendre. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Tu as commencé à faire des miracles, les yeux des gens s'ouvraient, les boiteux étaient guéris et marchaient. Alors ils ont continué, il a commencé en mars et je suis arrivée en septembre et il a passé de 22 à 800 personnes en 5 mois. Il se réunissait sous un pont mais il a dit « Ces gens ont besoin d'un enseignement et je n'ai rien à leur donner, j'ai exercé mon ministère là-bas pendant 3 jours ». Nous avons fait une croisade de 3 jours en plein air, sous le pont de cette ville, dans ces conditions, et la protection de Dieu était là. Il nous a fait entrer dans la ville et nous a fait sortir. Tu as probablement entendu parler de la région. Il y a beaucoup de conflits dans cette région, mais c'est ce genre de choses où Dieu nous a fait sortir. J'étais en Inde, à l'intérieur du pays, et j'exerçais mon ministère dans les villages des Intouchables. Dieu m'a envoyé là-bas pour faire une conférence avec 200 pasteurs de tous les villages des Intouchables, dans la ville de Visuada. Où nous logions, il y avait beaucoup d'émeutes et à cette époque, dans tout le pays, ils entraient et fermaient une ville entière. Une partie du message, l'essence même du message que je transmets, la communication avec Dieu. Et par cette communication, la connaissance de Dieu. Nous étions assis, nous avions terminé une conférence de pasteurs de 5 jours. Nous sommes revenus pour faire une dernière soirée dans cette ville et j'étais censé partir le jour suivant. Ils ont appris qu'ils allaient fermer toute la ville, qu'il n'y aurait plus de transport et qu'ils ne laisseraient rien entrer ou sortir de la ville le lendemain. Nous avons eu une réunion ce soir-là et Dieu m'a dit, dès que la réunion est terminée, tu quittes la ville. J'ai donc dit au pasteur que l'aéroport était à environ 64 kilomètres, qu'il n'y avait pas d'hôtel, pas d'endroit où loger et que mon vol n'était pas avant 10 heures le lendemain. Ils m'ont dit, eh bien, si c'est ce que Dieu te dit, c'est très bien. Nous avons fait une réunion dans la rue qui s'est terminée vers 10h30. Nous avions déjà tout emballé dans la voiture. Nous sommes partis à 10h45. Nous avons appris plus tard qu'ils avaient changé d'avis au sujet du lendemain. Ils ont fermé la ville à 11h15. Après notre départ, vous ne pouvez ni entrer ni sortir de la ville. Ce type de protection, Dieu m'a béni et c'est incroyable les endroits où je suis allée et d'où je suis sortie et je n'ai jamais manqué un rendez-vous pendant tout ce temps où j'ai voyagé dans le monde entier. Dieu a toujours pris le rendez-vous. Par exemple, au Nigeria, il est très difficile de traverser le pays et de se rendre dans les autres villes. Lors de mon dernier voyage de 30 jours de ministère, j'ai exercé mon ministère 66 fois et j'ai voyagé dans tout le pays sans jamais manquer un rendez-vous. En soi, c'est un témoignage fort pour eux parce qu'ils manquent toujours leur rendez-vous. Ils ne peuvent pas prendre rendez-vous. C'est l'une des clés des pièges de l'ennemi. Tant Dieu m'avertit à l'avance de la façon de les éviter. C'est une chose d'entrer dans quelque chose et de s'en sortir, mais c'est une autre d'empêcher la situation de commencer. Mais parfois, nous entrons dans la situation et Dieu nous délivre de ces pièges. Je ne sais pas si tu veux que je partage beaucoup dans ce domaine, mais l'année dernière, j'étais dans un pays du bloc de l'Est et une chose très unique s'est produite. Je priais avant de quitter la maison. Nous emportons plusieurs livres avec nous parce que je suis éditeur de mon propre livre. Pendant que je prie pour les choses les plus simples. Certaines personnes se demandent pourquoi tu reconnais Dieu dans chaque petite chose. Parce que je veux communiquer avec lui. Je veux le connaître. La parole dit dans Jean 14, verset 15, que le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Je me suis donc dit que plus Dieu me parlait, et que j'obéissais simplement à ce qu'il disait, plus je lui exprimais de l'amour. Je m'entraîne donc à faire cela dans chaque petite chose qui ne semble pas importante. Je mettais mes livres dans les étuis dans lesquels je les transporte normalement et j'avais cette sorte de sac en toile qui avait une grande fermeture éclair et la languette de la fermeture éclair s'est cassée. Je n'avais rien parce que je m'apprêtais à aller à l'aéroport. En priant, j'ai senti que le Seigneur disait « Attache un bout de ficelle à travers pour pouvoir l'ouvrir. » J'ai donc pris un bout de ficelle et juste par habitude, je veux dire que c'est juste la façon dont je fais les choses. Je commence à tirer sur la ficelle et je demande au Seigneur de me montrer où il veut que je la coupe. Quelle différence cela fait-il? C'est une chose toute simple. Normalement, je n'ai besoin que de 2 ou 3 pouces. J'ai continué à tirer jusqu'à ce qu'il y ait environ un pied avant que le Seigneur ne me parle et me dise « Voilà, coupe là ». Cela donnait un aspect poisseux. Ce n'était pas très joli. Cette ficelle pendait inutilement. Maintenant, 3 semaines plus tard, j'ai été dans 11 pays de l'Europe où nous voyageons. J'ai été à Thessalonique en Grèce. Nous voyageons dans un train et de nuit vers la capitale de la Yougoslavie. Dans le train de nuit, pendant la nuit, le chef de train est venu. Nous avions un wagon-lit et il nous a mis en garde. Il nous a dit « Assurez-vous de sécuriser votre chaîne. Vous avez une chaîne ou quelque chose pour sécuriser la porte fermée. Les bandits vont venir sur la voiture, sur le wagon ce soir et ils vont voler tout ce que vous avez. » Eh bien, nous avions pas mal d'argent liquide sur nous. Nous voyageons tellement que nous ne pouvons pas utiliser les cartes de crédit. Il y avait pas mal d'argent liquide donc avec nous. Nous n'avions rien pour sécuriser notre porte. Il n'y avait qu'une petite serrure à glissière, un boulon à glissière. C'est tout ce qu'il y avait sur la porte coulissante en verre. J'étais assis là en train de prier et j'ai dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il n'y avait aucun moyen de la sécuriser. J'ai levé les yeux et le Seigneur m'a demandé rapidement d'enlever la ficelle de l'étui que j'avais apporté. J'ai donc enlevé la ficelle et il m'a demandé de l'attacher à la petite languette, de la tirer autour du poteau et il y avait une vis qui dépassait que la ficelle atteignait juste à laquelle je l'ai attachée, ce qui a mis un peu de tension sur la barre coulissante. J'ai dit à l'homme, il y a un loquet dessus, mais il a dit, il leur faudra environ 3 secondes pour l'ouvrir. L'un tire la porte envers, une un peu en arrière, l'autre glisse un couteau en dessous, le roule la languette et elle bascule vers le haut et ils sont à l'intérieur et ils t'ont eu. J'ai fait ça, je suis allé me coucher. Vers 3 heures du matin, alors que nous dormions profondément, un énorme rocher a traversé le centre de notre fenêtre à travers le wagon de train. Cela s'était produit environ 2 jours auparavant, alors que nous venions de Roumanie en Bulgarie. L'un d'eux a traversé la fenêtre exactement au milieu, au même endroit. Il n'a touché aucun d'entre nous. Le docteur Jenkins de Derby, en Angleterre, était avec moi. Il est passé juste entre nous. Aucun ver n'a touché l'un d'entre nous. À 3 heures du matin, c'est encore arrivé. Ça m'a réveillé. J'étais allongé. Je méditais sur le Seigneur. J'avais les yeux fermés et tout à coup, je me suis senti poussé à ouvrir les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait 6 hommes qui se tenaient à notre porte. Il y avait un petit voile fin. Nous avions la lumière éteinte. Il y avait un rideau fin, mais on pouvait le voir très distinctement. L'un d'eux avait une petite lampe de poche et éclairait le loquet. L'autre tirait la porte vers l'arrière et l'autre, avec un couteau, essayait de tourner la barre, comme il avait dit, mais il ne remontait pas parce que la ficelle était tendue. Le Seigneur m'a demandé de me lever et je me suis approché et j'ai tiré les rideaux. Le Seigneur m'a demandé de leur dire de sortir de là. Je ne sais pas s'ils comprenaient l'anglais ou non, ils étaient 6. Ils m'ont regardé de l'autre côté de la vitre en me disant, « Qui es-tu ?» Pendant un moment, je suis resté debout à les regarder comme le Seigneur m'avait demandé de le faire. Et tout d'un coup, l'un d'eux a claqué les doigts, 3 d'entre eux se sont retournés et sont allés dans la cabine d'un côté et ont commencé à la cambrioler. Les 3 autres sont allés dans la cabine de l'autre côté et ont commencé à la cambrioler. Pendant 45 minutes, ils ont été dans le train à cambrioler les cabines et à voler les gens. Ils ne se sont jamais entrés dans la nôtre. Et Dieu a parlé à mon cœur, tu sais, de la sécurité qui est en lui. Il a dit, je t'ai promis qu'aucune âme formée contre toi ne prospérait. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y aurait jamais d'âme formée contre toi. J'ai dit que celle qui était formée contre toi ne prospérait pas. Une âme a été formée contre toi, mais elle n'a pas prospéré. Mais toi, tu vois que la protection, la provision s'est produite à Tulsa 3 semaines plus tôt pour des choses aussi simples qu'un bout de ficelle. Cela me donne de la crédibilité sur la raison pour laquelle je dois faire ce qui est dit dans Proverbes 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il dirigera ton chemin. Même dans les choses les plus simples, comme la longueur d'une ficelle à couper, tu ne sais jamais quand tu pourrais avoir besoin d'elle. Pasteur, vous avez beaucoup voyagé à travers le monde. À votre avis, quel est l'état de l'Église chrétienne en tant que corps aujourd'hui? D'un côté, je suis très encouragée, mais d'un côté, je suis très désespérée. Dans de nombreux domaines, nous constatons un recul de la simple confiance en Dieu, alors que dans d'autres parties du monde, les fondations sont renforcées et refaites. Je dirais que la chose la plus importante dont j'ai besoin, et je vois un certain changement, concerne les relations fondamentales avec le Seigneur. Mon ministère, ce que je fais, est basé sur une relation d'amour avec Dieu. Il n'est pas basé sur l'ambition ou quoi que ce soit d'autre. C'est simplement parce que je l'aime et que j'obéis à ce qu'il me dit de faire, que je vais de l'avant et que je fais ce que je fais. Ce que je fais n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est que je lui exprime mon amour par l'obéissance. Nous avons beaucoup appris, nous avons acquis beaucoup d'intelligence, nous avons reçu beaucoup d'éducation, nous avons reçu beaucoup de dons dans le corps de Christ, mais beaucoup de gens n'ont jamais établi cette relation d'amour claire avec le Seigneur, de sorte qu'il soit leur premier amour. Si je demandais à un chrétien de niveau moyen, n'importe où dans le monde, s'il aime le Seigneur, il me répondait bien sûr. Mais si après un examen approfondi, nous demandons si le Seigneur est son premier amour, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas, ce qui constitue un problème majeur. Le deuxième problème, le plus important, est qu'il n'est pas littéralement le Seigneur opérationnel de leur vie. Tu pourrais aussi leur demander si Jésus est leur Seigneur. Ils répondraient oui. Mais à la lumière des Écritures, le fruit qui devrait être là, s'il est littéralement leur Seigneur, n'est pas présent. Pour beaucoup d'entre eux, il n'est pas là parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ils ne connaissent pas le mécanisme qui leur permet de le laisser être leur premier amour, le mécanisme qui permet de le connaître et de communiquer avec lui suffisamment pour qu'ils puissent diriger leur vie. C'est la base que j'enseigne. Ce qui est passionnant pour moi, c'est que je vois cela partout dans le monde. Dieu a dit et donné une commande dans mon cœur. J'ai été pasteur pendant de nombreuses années. Dieu a commencé à me dire 10 ans à l'avance qu'il allait changer mon ministère. Lorsqu'il a finalement fait, je marchais dans cette communion avec Dieu. Je n'avais pas l'ambition d'aller n'importe où dans le monde. Dieu a parlé dans mon cœur un jour et m'a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dans leur cœur. Crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions, des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. C'est pour cela qu'il m'a demandé d'écrire le livre qui est intitulé « Mes brebis entendent ma voix ». Ce texte est tiré de Jean 10, verset 27, qui dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Il donne des instructions claires et simples sur la façon d'établir cette relation d'amour. Aujourd'hui, je trouve partout dans le monde des chrétiens de toutes les confessions dans le cœur crient vers Dieu. Ils reviennent à leur premier amour, ils le rétablissent. Ils acceptent le fait qu'il est le Seigneur et qu'il va prendre les rênes parce que nous avons trop de fruits de notre Seigneurie dans le monde. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas de bonnes choses, mais nous sommes loin de ce qui devrait être. La raison en est que nous ne sommes pas équipés pour être un Seigneur comme Jésus l'est, qui est équipé. Il a tout ce qu'il faut pour être un Seigneur. Le fait qu'il accepte même le travail m'a étonné. Il est prêt à prendre ma vie en charge. Il a fait de moi un vase d'honneur, et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de ses enfants. Mais je vois que le corps du Christ commence à se rassembler dans certains domaines. Je les vois s'occuper de choses fondamentales qui n'ont pas été traitées depuis longtemps. Beaucoup de gens sont encore seigneurs de leur vie. Ils construisent encore leur propre royaume, c'est vrai, mais beaucoup d'entre eux se sont tombés. Et cela a secoué beaucoup de gens. Ils ne savent pas quoi faire, alors ils crient vers Dieu. C'est un signe positif. Il y a de grands réveils en cours. Je vais dans de nombreuses parties du monde, en fait. Dans toutes les parties du monde où il y a un grand réveil, j'y suis allé et je travaille avec les ministères qui sont là. En partageant avec eux, j'ai pris beaucoup de clés sur ce qui a déclenché le réveil, ce qui l'a amené. J'ai vu le réveil à différents stades où il s'est élevé et où il s'est effondré, mais j'en ai vu qui était durable. J'en ai donc tiré des indications sur ce qui causait cela, et la clé est que ceux qui demeurent dans le réveil ont réglé la question fondamentale de savoir qui est le Seigneur et quel est leur premier amour. Ceux qui finissent par construire leur propre royaume avec les détruisent parce qu'ils ne pouvaient pas avoir l'onction. Ils n'avaient pas cette fondation. Ils se sont laissés emporter par l'orgueil, la popularité, la richesse et toutes ces choses qui peuvent découler de ce genre d'onction qui a été mal utilisée. Mais je vois des gens qui s'en rendent compte et qui voient dans les échecs des autres ce qui s'est passé et qui ne veulent pas voir se produire dans leur ministère. Je vois différentes étapes de ce réveil. Parfois, il n'est pas en plein floraison avec une croissance importante des miracles qui se produisent dans leur congrégation, mais je les vois faire un retour en arrière pour mettre le Seigneur en charge qui apportera le réveil. Le réveil doit commencer avec cet individu qui rétablit la relation d'amour. Je vois cela dans chaque nation où je vais dans un échantillon de dénomination. Je n'ai jamais vu cela auparavant au cours de mon temps de ministère. Dans toutes les religions du monde, les mêmes flux de Dieu se produisent à différents stades, dans différentes dénominations. Souvent, le réveil est venu par l'intermédiaire d'un groupe particulier et maintenant il se produit dans le corps du Christ tout autour. Une autre chose importante s'est produite grâce aux communications et aux transports. Le monde devient de plus en plus petit et nous commençons à apprendre les uns des autres. La parole de Dieu dit « N'ignorez pas les ruses de Satan ». Si je vais dans un pays et qu'il emporte une victoire totale sur Satan dans un domaine, c'est qu'il n'a pas tout simplement pas sa place dans son ministère. Il remporte constamment la victoire sur lui. Je vais dans un autre pays qui échoue constamment dans ce domaine et ils peuvent alors apprendre des frères de cet autre pays ce qu'ils ont fait et qui a fonctionné. Je fais beaucoup de conférences de pasteurs et de dirigeants. Il y a un brassage de ces informations de sorte que nous comprenions ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ils sont capables d'apprendre les uns des autres. Cela a été l'un des plus grands échecs dans le passé. Je crois que l'ennemi a essayé de nous séparer en tant que croyants pour que nous ne puissions pas nous inspirer les uns des autres et apprendre les uns des autres des choses que nous avons apprises à la dure sur la ligne de front dans la bataille. J'ai beaucoup de serviteurs qui sont là depuis de nombreuses années et qui se rendent compte qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès, ils n'ont pas vraiment réussi à vaincre. Et j'ai eu des pasteurs qui partageaient leur cœur et qui disaient « Cela fait 50 ans que j'ai fait ce métier et je n'arrive toujours pas à la faire fonctionner correctement. Quelle valeur ai-je pour le corps du Christ ?» J'ai dit « Vous avez une valeur énorme, vous avez 50 ans d'expérience de ce qui ne fonctionne pas. Un jeune ministère qui arrive maintenant peut faire les mêmes erreurs que vous pendant 50 ans, ou à moins que vous ne le convainquiez qu'il perd son temps, ne faites pas cela, cela ne fonctionne pas. » Même si vous n'avez pas les réponses de ce qui fonctionne, vous avez quelques-unes de ce qui ne fonctionne pas. Si nous nous réunissions tous, nous pouvons apprendre les uns des autres ce qui fonctionne et apprendre les uns des autres ce qui ne fonctionne pas. En mettant tout cela ensemble, nous allons grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur. C'est une chose passionnante que Dieu est en train de réaliser. Je vois la capacité de ces ministères d'horizons différents à se réunir sans se juger, sans se condamner, mais en puisant les uns les autres à partir du cœur que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Je pourrais partager avec toi ce que j'ai ressenti, goûté, expérimenté de la parole de Dieu et garder mon cœur, mon opinion pour moi et tu ferais la même chose. Nous pouvons tous les deux apprendre sans ressentir le besoin de nous condamner ou de nous juger l'un l'autre. C'est donc ce qui commence à se produire. J'organise de nombreuses conférences et je vois des pasteurs se réunir dans le cadre d'une campagne d'évangélisation à l'échelle de la ville alors qu'ils ne s'étaient jamais réunis dans l'histoire de cette région et nous voyons de beaux résultats. C'est un peu un stade embryonnaire, mais dans certaines régions, cela se développe rapidement dans toutes les régions où il y a un réveil majeur. L'une des choses les plus faciles à faire est de réunir les pasteurs. C'est l'une des clés là où il y a un réveil important. Et je n'ai aucun mal à réunir les pasteurs, quel que soit leur parcours. S'ils connaissent le Seigneur et qu'ils l'aiment, ils ont ce dénominateur commun. Nous essayons tous de revenir au Père, de lui confier les rênes, que le Seigneur prenne les choses en main et il redressera ses enfants pour que nous puissions nous aimer les uns les autres comme des frères et des sœurs. C'est une chose passionnante que je commence à observer à un niveau d'amour pour Dieu qui s'élève et corrélativement à un niveau d'amour pour les autres qui commencent à se mettre en place. Parce que je ne peux pas t'aimer plus que je n'ai été aimé. Je ne peux pas donner quelque chose dont je n'ai pas bénéficié. C'est ce que beaucoup de gens désirent aimer. Et ils n'y parviennent pas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de la source en eux. Le Seigneur enseigne comment atteindre le Père qui est amour, développer une relation d'amour réciproque afin qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu, que leurs besoins personnels soient satisfaits, qu'ils aient quelque chose à distribuer, qu'ils aient quelque chose à exporter et que l'amour de Dieu puisse se répandre dans leur cœur. C'est à ce moment-là que le corps de Christ, selon Éphésiens 4, verset 16, s'assemblera. Chaque personne sera bien unie en fournissant ce qui a été efficacement travaillé en eux. Pas des opinions, pas des idées, ce qui a été travaillé en nous. Ensuite, il est dit que le corps sera édifié et construit dans l'amour. La parole dit aussi que c'est à ce moment-là que le monde croira. C'est à ce moment-là qu'il croira que le Père a envoyé le Fils Jésus quand ils verront notre amour l'un pour l'autre. Le message est que nous devons aimer Dieu. La parole dit qu'ils ont demandé à Jésus, les pharisiens sont venus voir Jésus, ils essayaient de le piéger et les sadduciens. Et ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas grand-chose de bon. Alors finalement, l'un d'entre eux, les juristes, les hommes de la loi, posait une question au Seigneur et a dit, « Quel est le plus grand des commandements ?» Et le Seigneur n'a même pas hésité, il a dit, « Le premier est d'aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de tout ton corps. Le second, lui, est semblable. Il ne lui ont pas demandé le second, mais il leur dit, il leur a donné quand même. Le second, lui, est semblable et c'est d'aimer son prochain comme soi-même, il a dit. Sur ces deux commandements repose toute la loi et toutes les prophètes. C'est la clé à partir de laquelle je fonctionne. Enseigner au corps du Christ comment aimer son Père et recevoir cet amour, ainsi que les bienfaits de cet amour, ce qui nous permettrait ensuite de nous aimer les uns les autres. Au lieu de cela, nous essayons d'exiger l'amour les uns des autres. Les gens exigent que quelqu'un, quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Il s'agit de revenir à la source, de retourner au premier amour et de rétablir le lien, ce qui couvre une multitude de nos problèmes jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Merci de partager tes expériences avec nous. Je vous prie. La qualité de la vidéo n'est peut-être pas parfaite, car cela a été enregistré il y a de nombreuses années, mais le message de Joseph Hitchcock est toujours très clair. Il avait certainement un cœur selon Dieu après que Dieu se soit saisi de lui. Imaginez que Dieu prenne un fils de pasteur de Tennessee et le transforme en officier de police, en expert en sécurité, en officier de police militaire, puis un directeur de la sécurité, et qu'au milieu de tout cela, il le conduise à un point de brisement où Joseph a crié à Dieu et où Dieu a déversé son amour en lui. J'aime bien quand Joseph décrit que Dieu a déversé son amour et qu'il lui a donné ce cœur pour qu'il veuille le connaître. C'est comme Dieu. Si quelqu'un pouvait aimer Joseph de la façon dont Dieu l'avait aimé en sachant qu'il avait été un rebelle, il voulait connaître ce Dieu. Si nous avions tous une idée de l'ampleur du pardon qui nous a été accordé, si nous avions tous eu cette rencontre avec le Seigneur où il déverse son amour alors que nous ne le méritons pas, cela devrait donner le coup d'envoi ou enflammer une passion en chacun de nous pour le connaître. Non pas parce que nous sommes bons, non parce que nous sommes soudainement devenus bons, mais parce que Dieu s'est maintenant déversé dans nos vies et nous a pardonné alors que nous semblions impardonnables. Ce qu'il y a de bien avec Joseph Hitchcock est que nous respectons vraiment ce qu'il a aussi transmis les clés que Dieu lui a montrées lorsqu'il cherchait à établir cette relation avec Dieu. Comment la développer, ce que Dieu lui a montré, comment Dieu lui a montré de le faire, comment appliquer les vérités à sa vie, et il nous a transmis les clés. Quel privilège! Chaque personne que tu sois dans le ministère de Servants of the Lord Ministries depuis longtemps ou que tu sois relativement nouveau devrait chercher les ressources que Joseph nous a laissées pour que nous puissions faire fonctionner ces choses dans nos vies, pour que nous puissions réellement connaître Dieu, attirer le meilleur parti de ce qu'est la vie éternelle. Je recommanderai toujours à tout chrétien le livre Mes brebis entendent ma voix. Il y a une édition de 2021 et d'autres éditions révisées. Elles sont toutes bonnes, elles sont toutes importantes et elles contiennent toutes d'excellentes clés qui t'aideront et te feront gagner du temps dans ta relation avec Dieu. Joseph Hitchcock, sa mission était d'enseigner ces choses aux gens pour qu'ils ne mettent pas autant de temps que lui à arriver à Dieu. Quelqu'un qui est un pionnier. Joseph était un pionnier, il a ouvert la voie et il a cherché les réponses auprès de Dieu et ensuite, par la grâce de Dieu, il a pu nous donner certaines de ses réponses pour que nous les appliquions et que nous gagnions du temps. Chacun d'entre nous est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce n'est pas vous, vous n'avez pas tous à parcourir le monde comme Joseph Hitchcock, mais chacun d'entre nous a une place dans le corps du Christ. Je pense au jeune prédicateur qui a témoigné à Joseph. Je veux dire, nous entendons tous parler de Joseph Hitchcock quand nous lisons ses livres, mais il y avait un jeune prédicateur qui a parlé à Joseph et qui lui a raconté ses choses sur sa vie et qui était là et qui a conduit Joseph, enfin qui était avec Joseph quand il est venu au Seigneur. Je veux dire que chacun d'entre nous a des rôles différents dans le royaume de Dieu, mais la seule façon de devenir un vase d'honneur est d'appliquer les choses que Dieu nous montre, de nous vider de toutes les choses du passé et de toutes les choses que nous considérons comme importantes et d'aller après Jésus, suivre Jésus de tout notre cœur. J'adore quand Joseph dit qu'il était tellement désespéré et brisé devant Dieu qu'il ne se souciait pas de ce que Dieu lui ferait à ce moment-là. C'est cela, compter le coup. Et chacun de nous devrait compter le coup. Nous devrions arriver à cet endroit par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Dieu, par le Saint-Esprit qui travaille en nous, mais nous devrions arriver à cet endroit où nous reconnaissons que quoi que ce soit Dieu veuille faire, il a raison. La plus grande chose qu'il puisse faire, c'est de prendre des gens comme nous qui savons que nous avons péché et que nous n'avons pas atteint la gloire de Dieu et nous permettant d'apprendre à le connaître vraiment. C'est un privilège incroyable. un privilège inestimable, inestimable dans le sens où nous ne pourrions pas y mettre un prix. Nous ne pourrions pas remplacer bien qu'il ait coûté la vie de Jésus. N'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de connaître Dieu, mais aussi d'obtenir des informations à son sujet. Ne lis jamais aucun des livres de Joseph Hitchcock, ni aucune des ressources, ou n'écoute aucune des ressources juste pour essayer d'obtenir plus de connaissances ou d'informations à propos de Dieu. Nous voulons qu'il soit appliqué à notre vie afin que nous puissions vraiment apprendre à le connaître dans une relation intime. Et tout cela fonctionne par la grâce au moyen de la foi. C'est Dieu qui le fait en nous lorsque nous libérons notre foi en lui, que nous faisons confiance à Dieu, qu'il soit digne de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Ce n'est pas une question d'œuvre. Nous avons besoin de naître de nouveau. Nous naissons pas nous-mêmes. Nous cherchons Dieu et c'est lui qui nous donne le pouvoir. C'est lui qui nous fait naître dans la nouvelle naissance. C'est lui qui nous donne le pouvoir de vivre cette vie. Mais il s'agit de libérer notre foi en Dieu qu'il fera ce qu'il a promis. 29 fois, peut-être plus, Joseph dit, par la grâce, par le moyen de la foi et non par les œuvres. Écoute ce qu'il dit ici dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin ». Chapitre 5. Ce n'est pas censé être difficile et cela aurait dû commencer le premier jour où tu as été sauvé. Cette relation n'a absolument rien à voir avec les œuvres ou la maturité. Ce don est venu par la grâce au moyen de la foi. C'est tiré de Éphésiens 2, verset 8. Si tu essaies de parvenir à cette relation par des œuvres, des bonnes œuvres, en obéissant à des doctrines religieuses ou par le légalisme, cela n'arrivera pas. Les livres de Joseph Hitchcock et les ressources ne nous ont pas été donnés pour en faire des règles religieuses, pour en faire une nouvelle loi ou un nouvel système juridique. Il nous a été donné pour que nous puissions les faire fonctionner par la grâce, au moyen de la foi, pour que nous puissions commencer à connaître Dieu. Ce n'est pas un travail que nous faisons pour être sauvés, c'est un don que Dieu nous a fait et que nous recevons par la grâce au moyen de la foi. Pour ceux qui fréquentent SOLM, depuis longtemps, je vous encourage à réfléchir. Êtes-vous légaliste, strict et religieux? Et religieux par rapport à ce que Joseph nous a laissé? Joseph ne voulait pas que ces choses soient comme ça. Il voulait que chaque chose apprenne, que chaque personne apprenne à connaître Dieu pour elle-même dans cette relation d'amour. Ce n'est pas une loi ou une règle, mais c'est une façon de connaître Dieu par la grâce au moyen de la foi. Tu pourrais peut-être faire une recherche, parcourir tous les livres de Joseph, si tu les as, et voir les choses où il mentionne par la grâce au moyen de la foi. J'ai compté au moins 29 fois. Il est très clair. Il s'agit de faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui va faire le travail en nous si nous lui faisons confiance. Il y avait tellement de choses dans le livre, mais préviens entendre ma voix. Joseph ne s'intéresse pas à ce qui semblait juste, ce qui paraissait juste aux doctrines religieuses. Joseph s'intéressait aux choses qui marchent. Il aime les choses qui marchent. Il avait certainement un caractère aventureux, ce qui est utile pour nous parce qu'il a ouvert la voie à cette aventure qui consiste à apprendre à connaître Dieu. L'une des choses que Joseph avait l'habitude de dire et qui ne semble très important, il dit qu'une once de prévention vaut mieux qu'un livre de remèdes. C'est une grande sagesse. Il a parlé d'un témoignage selon lequel 3 semaines avant son voyage, alors qu'il était à Tulsa, Oklahoma, il planifiait un voyage en Europe de l'Est et Dieu lui a parlé d'un morceau de ficelle et a utilisé ce morceau de ficelle pour protéger une serrure afin que les bandits ne puissent pas la forcer pendant qu'il était en voyage. Si nous cherchions Dieu, appliquons Proverbe 3, versets 5 et 6, qui est une sagesse. Proverbe est un livre de sagesse. Un livre de sagesse que Joseph a appliqué. Si nous appliquons cette même sagesse, alors Dieu pourrait nous empêcher d'être dans toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes et des difficultés dans lesquels nous nous mettons nous-mêmes. Et il y a des problèmes et des difficultés dans lesquels Dieu nous met. Et si Dieu nous met dedans, il nous en sortira. Parfois, il nous sort de ceux dans lesquels nous nous mettons nous-mêmes. Mais parce que c'est en Dieu, bon. Et c'est par sa grâce. C'est une expérience merveilleuse quand Dieu devient réel dans ta vie et que tu vois les choses qu'il fait et comment il te protège dans tout ce qu'il a ordonné. L'une des clés dont Joseph a parlé à propos du réveil, ce sont les deux pierres angulaires principales, que Jésus-Christ soit ton premier amour et qu'il soit aussi ton Seigneur. Jésus-Christ étant le premier amour et aussi ton Seigneur. Ce qui veut dire maître. Nous devons nous tous régler ces questions. Nous devons tous régler ces questions dans nos vies qui va vraiment contrôler nos vies. Et lorsque les réveils ont duré, Joseph a vu beaucoup de réveils et a visité beaucoup de réveils dans le monde. Et ceux qui ont duré sont ceux où les gens ont reconnu que Jésus-Christ a le droit de contrôler et de diriger nos vies et que Jésus-Christ est le premier amour. Si nous voulons vivre dans un état de réveil, nous devons garder ces pierres angulaires en plaçant et reconnaître que c'est seulement par Dieu que nous pouvons le faire. Je voudrais terminer par une citation tirée du chapitre 4 du livre « Mes brebis entendent ma voix ». Réfléchissez à ces choses. Regardez peut-être à nouveau le témoignage et profitez au maximum du don de la vie éternelle grâce aux enseignements qui ont été donnés. Je marche avec le Seigneur de façon constante depuis 1972. Je connais les raisons pour lesquelles les croyants n'ont pas une relation constante avec Dieu. Ce livre identifie ces raisons et explique comment les surmonter. Mon intention n'est pas d'argumenter contre les dénominations ou d'autres doctrines. Je veux seulement partager les vérités qui transforment. Apprendre à entendre et à connaître le Seigneur changera aussi ta vie. Amen. Que cela change ta vie. Relis le livre « Mes brebis entendent ma voix ». Si tu n'as jamais lu ce livre, je te conseille de le lire. Mais pas seulement pour t'informer. Ces vérités ont une grande portée. Elles sont vastes. Tu ne peux pas les faire fonctionner du jour au lendemain, mais tu peux le faire petit à petit par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Il s'agit de faire confiance à Dieu. Il s'agit de la faveur non méritée de Dieu et de la confiance qu'il est digne de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Si Joseph a marché avec Dieu depuis 1972, alors nous pouvons marcher avec Dieu si nous appliquons les mêmes vérités. J'espère que tu seras béni par ce témoignage et je t'encourage à visiter le site web de Servants of the Lord Ministries, www.solm.org. Merci et soyez bénis.
Do you want to know your Heavenly Father and Jesus in a more personal way? Do you want to hear God speak to your spirit in every area of your life? If the answer to these questions is yes, then this book is for you. Written by Joseph Hedgecock, it will give you clear and easy to understand instructions for an exciting walk with your Father and His Son Jesus Christ. Available from Servants of the Lord Ministries.